Sèvres est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. À 2 mois des élections européennes, le Salon du Livre, qui se tient pour quelques heures encore à Paris, a eu la bonne idée, non pas d'honorer un pays comme il le fait chaque année, mais un continent, le nôtre, l'Europe. Or, l'Europe est bien plus qu'un continent depuis que quelques hommes politiques visionnaires ont lancé la plus grande aventure politique du XXe siècle, bien sûr inachevée, la construction pas à pas de l'Union européenne. Alors en cette période, les essais sur la refondation, l'approfondissement ou le dénigrement de l'Europe sont légion, mais il est plus rare que les institutions européennes servent de cadre à un roman policier, qu'un écrivain parcourt notre continent à la recherche de notre histoire commune, ou qu'une jeune présidente d'association européenne se lance dans un tour de France à l'écoute des espoirs et doléances de nos concitoyens. 3 écrivains inspirés par l'Europe, nous les avons réunis dans le studio 42 de RFI. Je vous les présente. Bonjour Maxime Caligaro.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un roman policier qui s'appelle Les Compromis, on va tout savoir dans quelques temps, qui est sorti aux éditions Rivage, avec un co-auteur, Éric Carder, un peu mystérieux, on en dira un peu plus tout à l'heure. François Reynard, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste et écrivain. Votre dernier livre, Voyage en Europe aux éditions Fayard, bah, tout est dit, vous avez un grand voyage en Europe et vous nous expliquerez pourquoi. Bonjour Ariane Forgue.
Bonjour.
Vous êtes la présidente fondatrice de l'association des Européens et des Hommes et votre essai aux éditions Gédang s'appelle tout simplement « Des Europes et des Hommes, chronique d'un tour de France pour rallumer les étoiles ». Alors, Maxime Caligaro, vous connaissez avec votre co-auteur Éric Carder...
C'est pas son vrai nom, donc on peut l'écorcher.
Mais justement, intimement, le Parlement européen. Alors vous êtes sous les projecteurs, Éric Carder, non, pourquoi ?
Toujours fonctionnaire, et donc soumis à un droit de réserve, et donc nom de plume.
Alors que vous avez été assistant, vous êtes maintenant libéré de vos obligations de discrétion, voilà, de confidentialité du Parlement européen.
J'ai travaillé pendant plusieurs années au Parlement européen, j'en suis sorti en 2017.
En tant qu'assistant d'un député. Alors, dites-moi, il s'en passe des choses au Parlement européen. Sandrine Berger, eurodéputée verte française en charge de la directive diesel, quelque chose d'important, hein, un beau dossier au centre de bien des enjeux qui peut permettre de sortir du lot de l'anonymat des 751 députés. C'est pas facile, hein. Quand on est 751, comment faire venir à soi la lumière, hein, c'est pas évident.
Il faut mourir et faire une plongée du 12e étage des salons protocolaires du Parlement européen et arriver, paf, comme ça, en face de l'hémicycle, face contre terre.
Voilà, donc Sandrine Berger tombe plus ou moins du 12e étage, c'est ça, du Parlement européen. À partir de là, il y a tout un roman policier, toute une enquête. Alors, on va évidemment pas dévoiler qui a pu... assassiné, car dans un premier temps, on a
la question se pose.
Un suicide, mais dans un deuxième temps, évidemment, de fin de limier ont mis en évidence le fait que cette mort était tout de même bien mystérieuse. Et puis, c'est aussi une plongée au sein du Parlement européen et de son petit monde qu'on appelle assez souvent la bulle bruxelloise, vous l'avez bien connue. Alors, même si le Parlement européen organise assez régulièrement des visites, nous allons partir du principe que nos auditeurs n'ont jamais visité le Parlement européen. Alors, c'est tout un monde. Et d'abord, il faut préciser qu'il y en a deux, en tout cas dans deux lieux différents.
Ah oui, il y en a un à Strasbourg, le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg, et celui effectif, dans lequel on passe le plus clair de son temps, est à Bruxelles. Il y en a même un troisième, puisqu'une partie de l'administration se trouve au Luxembourg. Donc les documents de travail sont traduits à Luxembourg. On ne va pas à Luxembourg. Économie.
Alors, par contre, on va une fois par mois de Bruxelles à Strasbourg, c'est une lente migration.
Ouais, une transhumance. Alors, on raconte ça dans un chapitre du bouquin, parce qu'on prend le Thalys, donc qui est le train qui part normalement de Bruxelles à Paris, et qui ensuite passe par Strasbourg. Et donc, on vit des moments comme ça de vie parlementaire, notamment dans le Thalys, où on continue de mener l'enquête et à récolter les informations.
Alors, à Bruxelles, c'est un immense bâtiment, je dirais plutôt laid, mastoc, je sais pas ce que vous en pensez.
C'est des vitres bien lavées, mais effectivement, on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière.
À Strasbourg, c'est un bâtiment plus élégant.
Entouré de douves, et nous, ce qui nous a donné un peu l'envie d'écrire ce roman, c'est la relecture du nom de la rose d'Umberto Eco. En février 2016, Umberto Eco est mort, et Éric et moi, on s'est mis à relire le nom de la rose, donc il y a une intrigue policière plantée dans une abbaye bénédictine. Et cette abbaye, comme ça, ce vase clos, ce monde avec ses codes, ses mœurs, ses rites, ça nous a rappelé le Parlement européen. Et à un moment dans le film, parce que le livre a été adopté à l'écran par Jean-Jacques Hano, avec Sean Connery et Christian Slater, et dans le film, on voit tous ces moines venus de toute l'Europe se réunir comme ça dans l'abbaye. Il y a des factions différentes, comme il y a la droite, la gauche, les verts au Parlement européen. Là, vous avez les franciscains, les bénédictins, les dominicains. Et vous voyez tous ces gens qui arrivent et qui convergent pour avoir des débats un peu abscons dans une abbaye du XIVe siècle dans le nord de l'Italie. Ça nous a rappelé un peu le Parlement européen avec l'arrivée des députés qui... Il faut bien le dire, de temps en temps, débattre de choses un peu absconses. Quand on parle des 3%, de la règle des 3% sur le pacte de stabilité de l'euro, ça relève un peu de la théologie. Et on s'est dit que pour intéresser les lecteurs à quelques mois des élections à cette arène parlementaire, il fallait faire comme écho, il fallait planter un meurtre en plein Parlement européen.
Alors le Parlement européen, donc il la plupart du temps à Bruxelles, hein, une semaine par mois seulement à Strasbourg, c'est vraiment une ville dans la ville avec des quasi-avenues, une place centrale, des petits couloirs qu'on pourrait appeler des ruelles, enfin bon, c'est vraiment un monde dans un monde avec des milliers de personnes hein, qui s'y croisent. Alors souvent le niveau c'est quand même bac plus 5, 6 ou 7, hein, on a rarement des moins que des bac plus 5.
Ah, vous serez étonné, je suis pas sûr de l'information, il faudra la vérifier, mais un des assistants de Martin Schulz, qui s'appelle Monsieur Winkler, qui l'a suivi, donc Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, apparemment n'a pas un niveau d'études très élevé. Il a suivi son patron comme ça à travers la hiérarchie parlementaire. C'est encore à vérifier, on m'a dit ça l'autre jour lors d'un déjeuner. Et effectivement, apparemment, lui n'a pas un niveau d'études très haut, et pourtant, il est arrivé à se loger très haut. Parce que c'est un malin, et dans notre roman Les Compromis, on découvre beaucoup de malins au Parlement
Alors,
européen.
On parle évidemment toutes les langues de l'Europe, il y a 24 langues officielles au Parlement européen, mais on en parle encore bien d'autres, bien évidemment, au Parlement européen, ou en plus des 24 langues.
Au Parlement européen, on en parle plus, il y a le gaélique aussi, qui est une langue irlandaise. Il y a un peu d'argot, mais surtout ce qu'on parle, c'est parfois le technocrate. On essaie de déchiffrer un peu ce que la Commission nous envoie comme rapport, comme papier. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire aussi à travers ce roman, c'est de décrypter cette langue un peu particulière, qui est la langue des eurocrates, qui est accessible hein, quand on s'y intéresse un petit peu, mais qu'il faut connaître et décoder.
Donc 24 langues plus une autre, la langue des eurocrates.
Voilà, j'avais interviewé une fois le commissaire Pierre Moscovici qui me disait que lui parlait l'ECFINISH, qui était au fait la langue de la DG ECFIN, économie finance, qui s'occupe de contrôler les budgets, et qui disait qu'il n'avait pas été totalement pollué par l'ECFINISH et qu'il parlait encore un peu le français.
François Reynard, ça vous inspire une remarque
ce oui, que vient de dire Maxime. Il y a une langue en plus là de ce qu'en dit Maxime, et tout le monde l'a compris en l'entendant parler. C'est il y a une langue en plus qui est l'humour. C'est que dans son livre, non seulement c'est un excellent polar, non seulement avec ça il est très pédagogique, on comprend absolument tout le fonctionnement du Parlement européen. Moi, j'avais jamais compris exactement comment on faisait une loi. Là, on comprend tout. On fait une directive ou un règlement. Et par ailleurs, il y a le côté humoristique qui est très drôle. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maxime, ce que c'est qu'un arbre de Noël dans l'argot des assistants parlementaires?
Alors, l'arbre de Noël, c'est quand vous faites un rapport. Vous savez qu'au Parlement européen, il n'y a pas de majorité. Donc, pour faire un rapport, pour avoir une majorité, il faut mettre d'accord la droite, la gauche, les verts, les communistes, l'extrême droite. Quoique souvent, on met l'extrême droite de côté. Et quand vous êtes en charge d'un rapport, il faut prendre un petit peu d'un mot qui fait plaisir à chacune des factions politiques, et vous faites un arbre de Noël. C'est-à-dire que chacun, il peut retrouver sa boule, sa guirlande, alors vous perdez de la cohérence, mais vous avez fait quelque chose qui va avoir une majorité, qui est très lumineux, qui est très scintillant, chacun peut s'y retrouver, chacun a trouvé son cadeau au pied du sapin, mais au final, ça fait pas des rapports très clairs, en tout cas pour les citoyens.
Ça clignote, en tout cas.
Ça clignote, et dans un chapitre du roman, on raconte exactement comment se négocie ce genre de texte, comment se font les arbres de Noël
alors, ouais,
à Bruxelles.
On peut y venir, puisque vous l'évoquez, entre le moment où le texte commence à être négocié et le moment où il finit par être adopté, il faut un temps très très long, de l'ordre de 20 mois, c'est plus ou moins le temps de gestation d'un éléphant.
Voilà, c'est ça. On apprend en fait à travers ce roman aussi quel est le temps de l'Europe, quel est le temps long, le temps qui peut parfois créer des frustrations pour les hommes politiques, pour les hommes et les femmes politiques, pour les assistants.
Et pour les Européens.
Et pour les Européens, mais je pense que à la lecture du roman, on arrive à comprendre quelle est la complexité du cheminement d'une loi européenne et pourquoi il faut tant de temps? Parce que quand vous devez asseoir, mettre d'accord 27 pays, 8 familles politiques différentes, il y a plus de 200 partis nationaux représentés à l'intérieur du Parlement européen, il n'y a jamais une baffe qui vole, puisque la violence a quitté le Parlement européen, sauf dans notre polar. Mais donc, ça prend du temps de mettre tout le monde d'accord, et ce temps, on essaie de le restituer dans la lecture, avec des accélérations, mais aussi des moments de longue marche dans le processus de création des normes.
François Reynard.
Oui, ça c'est très important. Le roman s'appelle Les Compromis, parce que la grande notion tradition bruxelloise européenne, c'est l'idée du compromis, c'est l'idée que tout le monde doit être d'accord. Il y a plein de gens qui sont contre l'Europe parce qu'ils disent c'est impuissant, ça marche pas, etc. On peut leur dire à eux, bah, vous dites que ça marche pas. Regardez, aux États-Unis, c'est un pays qui soi-disant marche, mais Trump, il n'arrive à rien faire puisque tout le système est bloqué entre une majorité et un président qui sont pas d'accord. Et regardez l'Angleterre, regardez ce que ça donne le souverainisme, regardez le Brexit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Là, à Bruxelles, on met du temps, c'est le temps de gestation d'un éléphant, mais à la fin, on arrive à faire quelque chose par le compromis, qui est une vertu démocratique.
Et évidemment, les compromis, c'est le titre de votre livre, Maxime.
Et juste un mot sur le titre, ce qui est amusant, c'est que quand je le fais lire, quand un ami eurocrate le lit, il dit « Ah, fantastique, oui, effectivement, le compromis politique, l'Europe, ce n'est que ça, c'est la fabrique des compromis. » Et quand vous le faites lire à quelqu'un qui se fiche de l'Europe, qui n'a jamais fait de politique, il dit « Ah, c'est un livre eurosceptique, les eurocrates sont des gens compromis. » Et donc, en fait, chacun va, comme c'est un roman qui n'est pas un roman à thèse, qui est là pour vous dire « L'Europe, c'est bien, l'Europe, c'est mal », mais qui est là pour vous dire « L'Europe, c'est comme ça », chacun il projette ce qu'il veut. Un journaliste m'a dit qu'il trouvait ça très critique et très eurosceptique.
Alors c'est peut-être aussi qu'en France, on confond facilement compromis et compromission.
Oui, voilà. Nous, on est dans un système très binaire, oui ou non, blanc, noir, droite ou gauche. Et effectivement, on a du mal avec cette notion de compromis parce qu'on n'est pas habitué à la machine parlementaire. Et le Parlement européen, c'est un Parlement qui est étrange pour un Français. Moi, quand j'ai débarqué là en 2011, vous n'êtes pas un parti qui domine tous les autres, vous n'êtes pas aux ordres d'un gouvernement, et c'est une jungle qu'on essaye de faire découvrir en faisant une espèce de taxinomie des espèces parlementaires avec les assistants, les députés, les conseillers.
Il y a tout un monde dans ce Parlement européen. Donc 751 députés pour l'instant, bientôt 705 avec le départ des Britanniques. Chaque eurodéputé a plusieurs assistants. Alors il y a aussi des conseillers politiques, c'est des super assistants qui gèrent un peu la politique du groupe, c'est ça?
C'est ça, c'est les plus retors.
Il y a les fonctionnaires du Parlement, les fonctionnaires de la Commission européenne qui sont évidemment aussi dans les allées du Parlement. Et puis, il y a des interprètes, il en faut, puisqu'on parle 24 langues. Et puis, il y a aussi des journalistes et des lobbyistes. Alors, eux, on remarque tout ce petit monde. Qui est qui, grâce à ce système de badge? On voit tout de suite qui est qui lorsqu'on est un professionnel du Parlement européen. Car le badge dit tout.
C'est ça, les journalistes portent un badge jaune
qui veut dire fluo, hein.
Attention, éloignez-vous, il y a des micros. Les lobbyistes portent des badges bruns. Alors, je sais pas quelle signification on veut mettre derrière, mais pour les assistants c'est bleu et pour les députés, il suffit d'avoir un air très sûr de soi, passer sans son badge, dire bonjour à la sécurité et aller en avant. Mais j'ai une fois vu Michel Barnier se faire recaler à l'entrée, qui expliquait qu'il était commissaire européen mais il y avait rien à faire pour la sécurité.
C'était
du Parlement.
C'était anglais, le type de la sécurité peut-être.
Probablement. Vous allez nous faire sortir, on ne vous fera pas rentrer. Mais c'est avant le Brexit, ça.
Alors, un monde avec des personnages et des dégaines, hein, quand on est un professionnel du Parlement européen, on voit tout de suite, lui c'est un assistant, mais c'est un assistant des Verts, ou du groupe, d'un parti de droite, parce que, évidemment, le costume fait l'homme.
C'est ça. Alors, si vous êtes d'extrême gauche, généralement, les députés sont habitués, donc ils ont une moustache. La plupart du temps, on dirait qu'ils sont habillés dans un... Non, je sais pas. Ou Staline, j'en sais rien. Et ils sont habillés, donc on est dans une espèce de vintage, un style vintage, comme on peut en trouver dans les second-hand shops de Berlin-Est. Les libéraux, ils sortent d'une pub de Dolce Gabbana. Les Verts, eux, ils sont un peu scruffy avec des t-shirts fair trade.
Scruffy, Maxime, qu'est-ce que ça veut dire scruffy?
On a du mal. Scruffy, c'est, vous savez, quand vous êtes mal rasé, vous avez les cheveux un peu en pétard.
Hirsute.
Décontracté.
Voilà, c'est ça. Et c'est très cool. Difficile. C'est très difficile de les distinguer des journalistes. C'est pour ça que les journalistes, on leur a mis un badge jaune.
Des lieux aussi. Alors, j'ai appris que le Mickey Mouse Bar, c'est un must pour rester en français du Parlement européen.
Oui, voilà, c'est un lieu emblématique, c'est là que se rencontrent les députés, les assistants, les lobbyistes et les députés ou leurs assistants. Et il y a plusieurs légendes autour du nom Mickey Mouse. Certains pensent que c'est parce que les chaises du Mickey Mouse avaient les formes des oreilles de Mickey. Mais en vérité, c'est parce qu'il y a un tableau où vous voyez un Mickey complètement affolé dans une forêt de bouleaux qui a été peint par un Estonien, je crois. C'est assez étrange, c'est une espèce de cri d'Edvard Munch au Parlement européen sous les traits de Mickey.
Au secours.
Donc, voilà, et donc le tableau a donné son nom au bar.
Alors quand même, là on parle des gens, on a une discussion un peu légère, mais il se passe des choses importantes, avec quand même des textes importants, des enjeux économiques importants, des conflits de pouvoir importants. Il se passe des choses importante au Parlement européen.
Si on veut tuer les députés pour empêcher les directives d'avancer, c'est qu'effectivement, il y a de l'enjeu. Nous, on a voulu aussi déconstruire un peu les idées reçues sur l'Europe en montrant comment les choses marchent. Pas en disant, encore une fois, c'est bien ou c'est mal, mais quand on parle des lobbies, on a pris le diesel parce que pour nous, c'était un moyen d'explorer des névroses qu'on a par rapport à Bruxelles, la place des lobbies, par exemple. Donc, on montre dans un chapitre comment est-ce qu'on se fait lobitomiser par un lobby, c'est-à-dire comment est-ce que vous arrivez avec un lobby qui vient vous expliquer le point de vue de son industrie, qui vous envoie des chiffres à la figure. Mais encore une fois, on montre comment ça marche. On ne donne pas d'avis là-dessus.
Alors effectivement, le diesel, ça parle à tout le monde parce que évidemment, ça sous-entend la pollution, et le fait qu'on respire plus ou moins bien. Donc ça parle à tout le monde depuis le scandale Volkswagen il y a quelques années.
Et aussi, ça parle d'une deuxième névrose française sur l'Europe, c'est le spectre de l'Europe allemande. Le diesel, c'est la puissance allemande. Et on a voulu aussi montrer, comme on montre comment les lobbies fonctionnent, comment est-ce que le poids de l'Allemagne pouvait s'exprimer dans les institutions européennes. Encore une fois, on laisse au lecteur découvrir ce qu'on en pense et tirer ses propres conclusions.
Alors en tout cas, Sandrine Berger, lorsqu'elle hérite de ce dossier, de cette directive diesel à construire, à mettre en place, elle arrive à être très dynamique, très ambitieuse.
Oui, elle a des grandes ambitions pour son rapport. C'est son assistant parlementaire qui en suit, qui est le narrateur, qui lui a soufflé une idée de taxation du diesel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas taxer les carburants au niveau européen. L'Europe n'a pas de compétences, n'a pas les pouvoirs de faire ça, et le Parlement européen veut essayer de mettre un pied dans la porte. Ce roman, c'est aussi une discussion entre la place du droit et de la politique à Bruxelles. Où est-ce que s'arrête le droit, où commence la politique? Parce que quand on est à Bruxelles, on est enserré par des traités, des règles. L'Europe ne peut pas tout, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ce roman est une discussion, voilà, entre le droit et la politique.
Alors, il y a évidemment à un moment des personnages centraux, les lobbyistes, évidemment, ils veulent alléger cette directive au maximum, et puis un personnage assez central, un peu gris, dans un premier temps on le remarque pas vraiment, c'est l'administrateur du Parlement qui dit attention, justement il y a les règles, on peut pas faire ça, ça, ça et ça, et c'est un personnage central.
Voilà, c'est ça, c'est un administrateur, il est danois, et comme je dis dans la taxinomie des espèces parlementaires, l'administration ce sont des espèces très bizarres, c'est une espèce à part, eux ils pensent en temps long, les députés pensent à 5 ans aux prochaines élections, les assistants pensent à la prochaine crise de leurs députés, et les administrateurs se projette en dizaines d'années et on voit un peu ces espèces se rencontrer. C'est un peu comme les grandes baleines des fonds marins. Ils sont énormes, on n'a pas envie de leur rentrer dedans, mais ils pensent vraiment très différemment. Et ce qu'on a essayé, c'est de faire dialoguer ces personnages pour voir un peu les logiques différentes des différentes espèces parlementaires.
Et à un moment, ça se passe mal, il y a même un deuxième meurtre.
Voilà, ça s'accélère et l'enquête continue. Donc l'enquête qui est menée par l'assistant parlementaire de Sandrine Berger, la première victime, qui essaye de reconstruire les derniers moments de sa vie, et de Guy Camaro.
Oui, un journaliste bien en place.
Un journaliste, voilà.
Un vieux briscard
en blouson de cuir, très fort en gueule et fort en tweet, qui est inspiré d'un journaliste bruxellois.
Qu'on a reçu ici plusieurs fois, on peut donner son nom. Hein.
Voilà, Jean Quatremer. Alors Camaro, c'est Quatremer en espéranto, puisque le général de Gaulle disait que les eurocrates parlent en volapük en espéranto, on a voulu faire un clin d'œil au général. Et donc voilà, c'est ce duo d'inspecteurs, de détectives qui vont remonter la trace de notre meurtrier et aller au cœur des contradictions du projet européen, de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui.
Alors à la fin, il y a quand même une directive. Les Européens respirent mieux. On peut même dire qu'ils pourraient respirer encore mieux s'il n'y avait pas eu un peu tous ces compromis.
Oui, alors
ce compromis.
Je veux pas évidemment spoiler la fin du bouquin, mais un ami lecteur m'a dit on sort avec un sentiment étrange, on ne sait pas si les choses ont avancé ou pas. On a trouvé un assassin.
Ouais.
On a compris comment se faisaient les normes, mais on ne sait pas si avec ce qui a été adopté, les choses vont aller mieux. Et je dis mais ne t'inquiète pas parce qu'après une directive, il faut ensuite aller dans les parlements nationaux pour aller transposer les directives, c'est-à-dire voter la loi et les faire naître. Et ensuite, ce sont les administrations d'appliquer des décrets. Donc j'ai dit, il y a de la matière pour plein d'autres polars aux différentes échelles de l'adoption d'une loi.
Mais tout de même, à la fin, il s'est passé quelque chose. On a réglementé quand même le diesel, les moteurs diesel en Europe.
On a donné un cadre, mais attention, c'est une fiction, cette directive n'existe pas.
Maxime Caligaro, avec votre compère qui arrive, lui masqué, Eric Carder, Les Compromis aux éditions Rivage Noir, décidément l'Europe est un roman. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tout Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Le Salon du Livre de Paris est en train de fermer ses portes et en cette année d'élections européennes, l'Europe était l'invitée d'honneur du Salon. Elles auront lieu environ dans 2 mois, ces élections, et à cette occasion, la publication d'ouvrages sur la refondation, l'approfondissement ou le dénigrement de l'Europe pullule. Mais il est plus rare que les institutions européennes servent de cadre à un roman policier, qu'un écrivain parcourt notre continent à la recherche de notre histoire commune et qu'une jeune présidente d'association européenne se lance dans un tour de France à l'écoute des espoirs et des doléances de nos concitoyens. Nous l'avons réuni tous les trois dans le studio 42 de RFI et je vous les représente. Maxime Caligaro, il est co-auteur avec Eric Carder du roman policier Les Compromis. On en a longuement parlé dans la première partie de cette émission. On a fait une plongée dans les couloirs et les coulisses du Parlement européen, Les Compromis aux éditions Rivage. François Reynard, journaliste et écrivain, son dernier livre Voyage en Europe, on va évidemment tout de suite en parler. Et puis Ariane Forg, présidente fondatrice de l'association Des Europes et des Hommes, son essai aux éditions Jet d'encre, Des Europes et des Hommes, chronique d'un tour de France pour allumer les étoiles. François Reynard, les petits Français apprennent l'histoire de la France, les petits Allemands l'histoire de l'Allemagne, de même pour les petits Polonais ou les petits Portugais. Les jeunes Européens n'apprennent jamais l'histoire de l'Europe, qui est pourtant leur histoire. Et vous avez voulu insister sur les points communs de notre histoire en nous emmenant dans un grand tour d'Europe, pas vraiment le tour des capitales européennes d'aujourd'hui, celles que l'on rejoint pour 50 euros avec les compagnies aériennes à bas coût, mais celui des villes qui ont compté dans l'histoire de notre continent et que l'on a un petit peu oublié, comme par exemple Sagres au Portugal, qui est la ville d'Henri le Navigateur. C'est le début des grandes découvertes. Vous avez retenu Bruges. Pourquoi Bruges?
Ah bah, parce que c'est la puissance du Moyen-Âge, la puissance du commerce au Moyen-Âge.
Gênes, en Italie.
Bah, pareil, le commerce au Moyen-Âge aussi, hein, les flottes, la rivalité avec Venise.
Et puis, de manière plus inattendue, Frombork, en Pologne, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs.
Alors, Frombork, c'est dans la cathédrale de Frombork que le chanoine s'appelait Copernic. C'est lui qui a, le célèbre Copernic.
Évidemment.
C'est lui qui a lancé ce qu'on appelle la révolution scientifique. Le fait que l'Europe a commencé à penser la science, a commencé au XVIe siècle, à penser qu'il fallait se sortir des dogmes religieux et penser une autre matière, autonomiser la pensée pour comprendre le monde, c'est ce qu'on appelle la science. C'est Copernic qui a lancé ça.
En tout cas, votre première grande étape, c'est Aix-la-Chapelle, la ville d'un récent traité franco-allemand signé par la chancelière Merkel et Emmanuel Macron, mais qui fut, il y a environ 1200 ans, la capitale de Charlemagne. Et vous vous arrêtez dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle.
Oui, parce que, alors, je reprends d'un mot ce que vous disiez. Effectivement, mon idée, c'était de me dire, on a une vision, tous les Européens, on a une vision tronquée de l'histoire. Parce que toutes les histoires européennes ont été écrites au 19e siècle. C'est-à-dire, le 19e siècle, le siècle de la puissance nationale. Au 19e siècle, tous les pays européens se sont fondés en nations, hein, la France d'abord, la Révolution française, puis l'Allemagne, l'Italie, etc. Et tous ont créé une histoire, ont recréé une histoire en disant on a une histoire qui n'est qu'à nous. Les Allemands ont appris une histoire comme s'il y avait une histoire uniquement allemande dans les siècles précédents, les Français, etc. Et ce que j'essaie de dire dans ce livre-là, c'est de dire non, tous les Français, par exemple, tous les Français qui nous écoutent, ou tous les gens qui connaissent bien la culture française, qui nous écoutent, ils ont dans la tête l'idée que il y a d'abord eu peut-être les Gaulois, puis ensuite il y a le Moyen-Âge avec des châteaux, puis après la Renaissance, puis des grands rois, puis la Révolution, puis la Révolution industrielle, etc. Eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'un Allemand a exactement le même schéma dans la tête, un Espagnol a exactement le même schéma dans la tête, un Anglais a le même schéma dans la tête. Et donc, en fait, ces gens pensent que leur histoire est différente, alors que pendant des siècles, elle a été la même.
Là, effectivement, et justement, Charlemagne, c'est un bon point de départ, parce que l'empereur Charlemagne, il est évidemment français pour les Français,
et allemand pour les Allemands. Et italien pour les Italiens, Carlo Magno, hein, parce que l'empire de Charlemagne, il allait jusqu'à Rome, jusqu'à la moitié de l'Italie. Et pour les Belges aussi, alors là, les Belges, pour le coup, c'est ceux qui ont le plus de droits à voir Charlemagne, parce que le berceau de la famille de Charlemagne, c'est en Belgique.
Alors justement, vous le dites, il règne sur un empire qui va du nord de la France à la Hongrie, et bien sûr sur ce qui est aujourd'hui la France, l'Allemagne, le Benelux, ça ressemble beaucoup à l'Europe d'aujourd'hui.
Complètement. Alors effectivement, Charlemagne, c'est un roi franc, c'est un roi d'une tribu germanique. C'est ces tribus germaniques qui ont occupé l'Europe occidentale au moment de l'effondrement de l'Empire romain. Et Charlemagne, c'est un personnage puissant. Et il y a un autre personnage qui essaie d'être puissant à l'époque, hein, au 8e siècle, qui est l'évêque de Rome, qu'on commence à appeler le pape. Mais l'évêque de Rome, avant, Constant, c'était pas quelqu'un qui était le chef de l'Église. C'était un parmi les grands patriarches de l'Église. Les grands patriarches de l'Église. Le plus grand patriarche de l'Église à cette époque-là, il est à Constantinople. C'est là où il y a un empereur romain, etc. Et cet évêque de Rome, comme il ne veut plus avoir de lien avec Constantinople, parce qu'il estime que Constantinople le protège mal contre des populations qu'il attaque, il fait alliance avec le franc. Et cette alliance entre le roi franc qui s'appelle Charles et le pape de Rome à ce moment-là, va créer le début de l'Europe occidentale.
Et leur alliance, c'est le pape qui couronne l'empereur.
Et leur alliance, c'est donc, alors tous les petits Français ont appris ça à l'école, comme les petits Allemands, comme les petits Anglais, etc. En l'an 800, à Noël de l'an 800, le 25 décembre, il y a le pape donc l'évêque de Rome qui dépose une couronne sur la tête du roi Charles, hein, en disant, je te nomme Charles empereur des Romains. L'idée, c'était, on va refaire l'empire romain. Et voilà, et c'est l'alliance de ce pouvoir spirituel et ce pouvoir temporel qui vont créer le Moyen-Âge européen. Sauf que ce qu'on raconte moins dans les livres, c'est que Charlemagne est très très mécontent de ça. Il est très mécontent de ça parce que lui, il estime que son pouvoir devait pas venir de l'onction du pape, mais qu'elle devait venir des peuples, qui devait être acclamés par les peuples, comme on faisait chez les Francs, hein. Vous savez, on portait sur un pavois, sur un bouclier. Donc, eh bien, ça crée quelque chose qui est particulier à l'Europe, qui est que dès le départ, il y a une discussion, il y a une confrontation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Est-ce que c'est le pape qui est le chef ou est-ce que c'est l'empereur qui est le chef? Ça, c'est très important. Et dans aucune autre région du monde, il y a ça. Hein, dans le monde arabo-musulman, le calife, il est chef spirituel et il est chef politique. Chez les Chinois, c'est l'empereur qui gouverne et dessous, il y a les prêtres confucianistes, les taoïstes, etc., qui sont dans son pouvoir. Dans le christianisme oriental que nous on appelle aujourd'hui l'orthodoxie, c'est l'empereur qui dirige. C'est-à-dire qu'il y a l'empereur qui dirige et sous lui, il y a le patriarche de Constantinople. Aujourd'hui, dans le monde orthodoxe, c'est Poutine le patron. C'est le pouvoir politique qui est le patron et le patriarche de Moscou, il fait ce que demande.
Il s'adapte.
Voilà. Alors que dans la tradition occidentale, il y avait un empereur dès l'an 800, là. Il y a un pape qui est à Rome et il y a un empereur qui est à l'époque de Aix-la-Chapelle, qui est à l'époque de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Il y a un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. Je pense que c'est ça qui va créer la laïcité européenne.
Alors, cette lutte d'influence entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, il commence avec Charlemagne.
Il commence avec Charlemagne et tout le Moyen-Âge, c'est ça. Tout le Moyen-Âge, c'est la lutte entre c'est la lutte entre l'empereur et le pape, hein. Tout le Moyen-Âge peut largement s'expliquer comme ça. Et par ailleurs, il y a ce pouvoir, le pouvoir spirituel, le pouvoir du pape. Le pape, il règne sur toute l'Europe parce qu'il a des instruments de pouvoir. Hein, il a un clergé séculier, les curés, etc. Mais là, pas tellement, parce que les clergés séculiers sont très soumis aux seigneurs des villages, des provinces, etc. Mais il a tout le réseau des abbayes. Hein, on parlait avec Maxime du nom de la rose et les abbayes du Moyen-Âge. Les abbayes du Moyen-Âge, elles dépendent du pape. C'est le réseau du pape.
C'est le réseau intellectuel aussi.
Et c'est le réseau intellectuel, bien sûr. Tous les clercs sont, voilà. À partir du XIIIe siècle, autre création européenne, ça, je vais suivre ça dans la ville de Salamanque en Espagne, hein. Autre création européenne, c'est la naissance des universités. Eh bien, toutes les universités, elles dépendent du pape. C'est la papauté qui fonde les programmes, etc. Donc, le pouvoir intellectuel, il appartient au pape et il est pan-européen. Il n'est pas la Sorbonne qui est l'université de Paris. L'université de Paris, elle dépend du pape. L'université de Salamanque, les programmes sont faits par le pape et tout le monde parle latin et tout le monde passe d'une université à l'autre. Hein.
C'est important de souligner, c'est qu'à l'époque, dans cette Europe dont on n'emploie jamais le mot Europe, évidemment.
Oui, on dit chrétienté.
On dit chrétienté. Il y a une langue commune qui nous manque aujourd'hui,
latin.
Qui est le latin.
Ah bah, tout à fait. Ça, c'est sûr que ça manque beaucoup à l'Europe d'aujourd'hui. Alors évidemment, on adore tous la magnifique phrase de Umberto Eco qui dit la langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais moi, je serais plus content qu'effectivement, on revienne au latin, oui. Pour le coup. Pourquoi pas, d'ailleurs. Mais après tout, c'est une langue morte qui redevient vivante. En Israël, on parle magnifiquement l'hébreu, qui était une langue morte, qui est redevenue vivante, qui est une langue morte et liturgique et qui est redevenue vivante. On peut très bien faire ça en Europe.
Alors, Maxime Caligaro, qui connaît bien le code du Parlement européen, nous dirait que la langue globale, c'est globish, hein, c'est ça, ou quelque chose dans ce goût-là.
C'est ce que dit l'un de nos personnages. Ce qui est fort avec ce livre, c'est que c'est un voyage. Encore une fois, si on m'avait dit, tiens, c'est un livre sur l'histoire européenne, merci, next. Là, on commence dans une église, on commence dans une cathédrale, on se balade le long d'un
château.
Fleuve,
en château.
On apprend plein de choses au passage, c'est très érudit. Vous savez, on apprend ce qu'on appelle des fun facts, des choses qu'on peut ressortir dans des dîners. Vous savez pourquoi le trèfle, c'est l'enseigne de l'Irlande? Est-ce que vous savez comment le pape est devenu pape? Et on finit avec une idée forte. Là, François vient d'expliquer comment a été créé, quelles sont les racines de la laïcité. En débutant le chapitre, on s'imagine pas qu'on va finir là, mais à travers ce voyage en Europe, on finit avec des grandes idées et plein de choses à raconter dans les dîners et avoir l'air très intelligent.
Bon, on comprend que Maxime Caligaro a envie de briller dans les dîners, envie. Alors François, et que vous l'aidez.
Je suis ravi. Je peux m'inviter François, si veut, on brillera à deux.
Alors, je fais un petit retour en arrière avec Charlemagne. C'est quand même la première fois que l'histoire se continentalise. Je sais pas si le mot existe. Avant, elle se décrivait plutôt autour de la Méditerranée avec le monde grec et le monde romain. Et là, avec la naissance du christianisme, soudain, c'est le continent qui prend le dessus.
La naissance du christianisme, il est oriental, lui, c'est à Jérusalem, mais effectivement, très souvent, les histoires européennes, les livres d'histoire européens, ils commencent à l'Empire romain. Alors, évidemment, bien sûr que tous les pays européens se revendiquent de l'héritage romain. Hein, si en Italie, en France, il y a des sénats, etc., c'est évidemment des références au sénat romain. Hein, en Allemagne, il y a plein de références au monde romain, etc. Mais le monde, je pense qu'on se trompe, parce que on prive le reste des gens de cet héritage. Le monde romain, c'est un monde méditerranéen. Hein, l'obsession romaine, c'est de faire le tour de la Méditerranée, un Mare Nostrum. Et donc je pense que les débuts de l'Europe, ils se passent effectivement au moment de Charlemagne, comme on l'a passé, au moment de cette union entre l'évêque de Rome et le roi des Francs, hein. Et puis parce qu'à ce moment-là, l'est de la Méditerranée, hein, ce qu'on appelle le Proche-Orient aujourd'hui, ou la Turquie, disons, ça appartient à un autre empire romain qui est l'empire byzantin, et le sud de la Méditerranée, le Maghreb, l'Afrique du Nord, à ce moment-là, ça a été conquis par les Arabes, par les arabo-musulmans. Donc c'est ça qui crée cette petite Europe occidentale, c'est ça qui la crée, hein, au 9e siècle, c'est le fait qu'elle se soit séparée de ce berceau méditerranéen.
Ariane Forgue.
Oui, alors ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que finalement vous arrivez à dépasser la scission qui a été créée notamment par l'éducation nationale entre l'histoire et la géographie qu'on connaît de longue date depuis des décennies, puisque en général on sépare histoire et géographie tout en les enseignant l'une après l'autre. Et dans ce livre, au contraire, vous mettez en avant tout ce qui est géohistoire. On parlait d'histoire de l'Europe et aujourd'hui, là tout de suite, vous parlez de géographie plus que d'histoire, en évoquant la Méditerranée, en évoquant tout ça. Et donc, voilà, ça permet de réconcilier ces deux domaines qui sont absolument liés et fondamentaux ensemble.
Oui, tout à fait. Puis je me disais que c'était, voilà, il y a un goût de la pédagogie, hein, de la même manière que Maxime Caligaro, s'il faisait un livre en disant, je vais vous apprendre les rouages du Parlement européen, tout le monde s'en fout. Il fait un polar, tout le monde y va, parce que c'est agréable, etc. Bon, de la même manière, grande histoire de l'Europe dans les détails avec tous les pays et le roi machin et le roi truc, etc. Tout le monde, il serait largué à la page 20. Donc là, c'est voyage en Europe, parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas le faire pour des raisons financières, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent parce que ça coûte de moins en moins cher, ces week-ends en Europe comme ça, et qui sont contents. Ben je me dis, s'ils vont à Prague, voilà, ce que je dis dans le livre, c'est si je dis à quelqu'un, je vais te raconter l'histoire de la Tchécoslovaquie, il va se mettre ou la Tchéquie, comme on dit aujourd'hui, il va se mettre à bâiller. Si je lui dis, je t'emmène à Prague et je vais te montrer, on va monter sur le pont Charles, c'était un empereur du 14e siècle, c'est lui qui a construit ce pont, et puis dans ce château qui est là-haut au-dessus de Prague, c'est là qu'a commencé la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, c'est la guerre religieuse, la guerre entre protestants et catholiques au XVIIe siècle, qui est une guerre très importante, et ben là, voilà, ce week-end à Prague, il va passer par ça et il racontera la même chose. C'est ce que je fais dans ce livre. J'essaie de raconter l'histoire par la géographie. Oui.
Maxime Galero, une question, une remarque.
Que certains personnages historiques ont été nationalisés. J'ai appris l'histoire de Richard Cœur de Lion. Moi, je regardais Robin des Bois quand j'étais petit. J'étais persuadé qu'il était très anglais et je me rends compte que pas du tout.
Oui, tout à fait. Ça fait quelques mois en Angleterre.
Simplement. Oui, tout à fait. Ça c'est le parce que effectivement, c'est le 19e siècle. Hein, et c'est les grands romans historiques du 19e siècle qui ont tout nationalisé. Alors effectivement, Richard Cœur de Lion, bien sûr, il était nominalement roi d'Angleterre, il était sur le trône d'Angleterre, mais il n'y a pas de nation anglaise à ce moment-là. Lui, c'est un noble parmi d'autres. C'est donc il était roi d'Angleterre parce que son père l'a été, mais il a été élevé dans le Poitou, il a été élevé en Aquitaine, sa mère c'était Aliénor d'Aquitaine, sa langue principale c'est l'occitan, et il est mort à côté de Limoges. Hein, donc c'est quelqu'un c'est pas un type qui boit du thé et qui lit le Times tous les soirs
et qui
s'engueule sur le Brexit.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Europe est un roman. Nous sommes avec Maxime Caligaro, co-auteur des Compromis aux éditions Rivage, avec François Reinhardt, qui vient de publier Voyage en Europe, on en parle et on en reparlera encore, avec Ariane Forgue qui vient de publier Des Europes et des Hommes. Alors, une question que vous posez, François Reinhardt, et qu'on a posée par exemple en 2005, lors de la Constitution européenne, L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes?
Alors, je pense que oui, bien sûr, l'Europe a des racines chrétiennes, mais elle a d'autres racines. Alors déjà, le mot de racine, moi, il m'embête parce qu'il voudrait dire que c'est une origine. Hein, le christianisme, non, le christianisme, c'est une importation. C'est-à-dire que le christianisme, c'est une religion orientale. La plupart des gens oublient ça. Le Christ, il n'a pas été crucifié en Vendée. Hein, le Christ, il est mort à Jérusalem. Et il vient de Jérusalem.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, quand même.
Bien sûr. Donc, c'est une religion orientale, comme ces deux religions sœurs du christianisme, que sont le judaïsme et l'islam, hein, qui sont les trois religions sœurs, qui sont trois religions orientales qui viennent du même berceau. Donc, oui, il y a une longue histoire chrétienne, et bien sûr, tout le Moyen-Âge européen, c'est le Moyen-Âge de la chrétienté, mais premièrement, il y a eu d'autres religions avant. Ensuite, en même temps, il y a toujours eu d'autres religions. C'est-à-dire que là, au Moyen-Âge, il y a un judaïsme européen qui est extrêmement important. Alors, les Juifs, on garde toujours l'histoire des persécutions, parce que les Juifs, au Moyen-Âge, ont été persécutés par les rois et expulsés du royaume de France, de l'Empire, etc. Celui qui a le roi le plus formidable du Moyen-Âge, que j'adore, c'est un roi Casimir, qui est un roi de Pologne, qui lui a accueilli les Juifs en Pologne. Parce que lui, il se disait, mais c'est une population qu'il faut pas laisser tomber, c'est une population qu'il faut aider, dans laquelle il y a des artisans, etc. Donc, bien des siècles plus tard, il y a eu l'antisémitisme polonais, mais il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de Juifs en Pologne, parce que c'était le roi de Pologne qui les avait accueillis, alors que les autres les chassaient. Donc, il y a le judaïsme. L'islam fait partie de l'histoire européenne, hein, la partie est du continent européen qui va devenir dominée par les Ottomans, il y a une partie musulmane. L'Espagne, pendant des siècles, était très largement musulmane. Donc voilà, il y a des religions, il y a d'autres religions en même temps. Et puis troisièmement, le troisième point qui est très important, c'est qu'il y a une autre grande notion européenne par rapport à la religion, c'est les Lumières, c'est-à-dire la tolérance religieuse. L'identité européenne, elle est liée à l'Europe des Lumières. L'Europe d'aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles, l'Union européenne, hein, qui m'est chère à moi, comme aux gens autour de cette table, je pense, eh bien, c'est une Europe qui a comme valeur les valeurs des Lumières. Et les Lumières, elles ont inventé cette chose magnifique avec Voltaire, avec Kant, avec David Hume, avec tous les grands Européens qui ont fait les Lumières. C'est la tolérance religieuse. C'est le fait que chacun a le droit d'avoir ses opinions et que les opinions religieuses sont libres. Donc l'Europe, c'est quelqu'un dans lequel, bien sûr, il y a une culture chrétienne qui est très importante, et il y a aussi la culture de respect de toutes les opinions, qu'on ait une religion ou qu'on n'ait pas de religion.
François Reynard, vous évoquez dans votre livre, donc Voyage en Europe, un épisode savoureux à l'heure du Brexit. Nous sommes au 15e siècle, au temps de la double monarchie qui unit la France et l'Angleterre. On se dit que si le 15e siècle avait perduré, on n'en serait pas là.
Ben oui, il y a beaucoup d'épisodes comme ça. Alors ça, effectivement, c'est au moment de la guerre de 100 ans, parce que la guerre de 100 là aussi, on l'apprend assez mal, parce qu'on fait ça en classe primaire, donc on s'en souvient pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, on en retient, nous, en France, un personnage qui est Jeanne d'Arc. Hein, Jeanne d'Arc, celle qui veut bouter les Anglais hors du royaume.
Celle qui sauve la France.
En fait, voilà. Alors, en fait, la réalité est pas celle-là. C'est pas du tout une guerre nationale. On est au Moyen-Âge. C'est pas, il y a pas de guerre. Il y a pas des Français contre les Anglais, comme il y avait les Français contre les Allemands pour la guerre de 14. Il y a des nobles qui sont pas d'accord entre eux et qui veulent le pouvoir.
C'est une sorte
donc,
de famille.
Il y a un clan qu'on appelle le clan Armagnac, avec le roi qui va devenir le roi Charles VII, qui disent le pouvoir est à moi, et il y a un autre clan plutôt dominé par les autres familles qu'on appelle les Bourguignons, et ceux-là ils sont pour l'alliance avec l'Angleterre, avec le roi d'Angleterre. Et donc effectivement, au moment où, enfin juste avant le moment où Jeanne d'Arc va faire sa grande épopée, il y a eu un roi qui a été sacré roi à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, hein, qui est un petit roi qui s'appelle le petit roi Henri, et le petit roi il était double monarque, c'est-à-dire il était roi de France et d'Angleterre. Effectivement, s'il y avait eu cette chose-là, le destin européen aurait été autre. Hein. Moi, j'ai tout le respect qu'il faut pour Jeanne d'Arc, ça c'est sûr, mais en tout cas, si elle n'avait pas existé, peut-être que l'histoire de France aurait été plus brillante et plus... on aurait été à la tête d'un plus gros pays. C'est pas,
et probablement pas que Theresa May aujourd'hui aurait moins de soucis.
Et alors, il y a un autre épisode après, j'en parle un tout petit peu, mais parce que là, on peut le souligner, parce qu'il a exactement 500 ans aujourd'hui, enfin, ça sera 500 ans au mois de juin. Il y a une autre chose qui se repasse un petit peu plus tard, au début du 16e siècle. Le roi de France, c'est François Ier. Et à côté du royaume de France, il y a le grand, hein, ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui est l'héritage de Charlemagne, qui est tout le monde aujourd'hui, un bout de la Belgique, le monde allemand, la Suisse, le nord de l'Italie, etc. Tout ça, c'est le Saint-Empire romain germanique. Et celui qui veut devenir le patron du Saint-Empire germanique, c'est celui qu'on connaît sous le nom de Charles Quint, hein, le cinquième empereur qui porte ce nom, Charles Quint. Et Et en fait, ce qu'on oublie toujours, c'est que pour désigner un empereur, il y avait une élection. Il y avait des princes allemands qui se réunissaient, qui faisaient une élection. Et celui qui était candidat contre Charles Quint, c'était François Ier. Ça, c'est pas dans les histoires de France, parce que comme c'est le roi national, hein, il faut pas qu'il ait voulu être le patron des Allemands aussi. Eh ben, si, il était candidat et il a perdu à une voix. C'est-à-dire qu'à une voix près, on serait tous les fils d'un grand pays qui s'appellerait la Franque-Allemagne ou un truc comme ça. Voilà, ça a failli se faire au XVIe siècle, ça ne s'est pas fait.
Alors justement, vous évoquez le sentiment national. Il émerge avec la notion d'État au niveau à peu près au XVIe siècle. Donc cette idée de nation, de sentiment national, évidemment qui est aujourd'hui très présent, c'est relativement récent.
Oui, alors donc effectivement au XVIe siècle en Europe se sont fondés des États. Un État, c'est-à-dire il y a un pouvoir et ce pouvoir contrôle par l'administration, la justice, etc. contrôle un pays. Ça c'est un État. Ça c'est le XVIe siècle. Et puis par ailleurs, il y a l'autre idée qui est l'idée de nation. C'est une idée beaucoup plus récente. La nation, c'est l'idée. Pendant très longtemps dans l'histoire du monde d'ailleurs, le pouvoir émane d'en haut. Il y a Dieu qui a désigné un roi, et le roi, il règne sur des gens, il en a rien à foutre de comment s'organisent ces gens, si vous voulez. Eh bien, la Révolution française, c'est le peuple français qui dit, on se constitue en tant que peuple, et c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Le pouvoir va émaner de nous. C'est ça la nation. La nation, elle est née au moment des États généraux à Versailles en juin 1789, au moment du serment de jus de paume. Et après, cette idée nationale, elle va se répandre partout en Europe. Hein, elle va se répandre en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais la nation, c'est cette notion récente. Et pour trouver sa légitimité au XIXe siècle, tous les gens qui sont partisans de cette idée nationale vont réécrire l'histoire comme si la nation, elle arrivait depuis les Gaulois. Mais c'est une réécriture de l'histoire. C'est faux, ça. Ça veut pas dire qu'il faut être contre la nation. C'est une notion magnifique.
Alors, il y a tout un chapitre important, une série de chapitres importants de votre livre. C'est évidemment ces nations conduisent au suicide de l'Europe. On n'a pas le temps d'en parler. Il suffit de lire le livre, Un voyage en Europe, édition Fayard. Vous, Ariane Forg, vous n'avez pas fait un tour d'Europe, vous avez fait un tour de France, plus modeste, mais tout de même, un grand nombre, 172 jours de voyage, 302 villes visitées, plus de 5000 personnes interrogées, et vous avez envie un peu au hasard de vos pérégrinations de savoir ce que ces Français pensaient de l'Europe. Ils en pensent quoi?
Oui, alors tout à fait. Donc, on a effectivement fait ce projet de Tour de France pendant 6 mois. La question, évidemment, du périmètre de notre tour s'était posée. On s'était dit qu'au niveau départemental, municipal, c'était effectivement trop petit. Mais vous évoquiez tout à l'heure les 24 langues et potentiellement plus une qui se répandent dans l'Union européenne. Et nous, c'est vraiment ce qui a créé une barrière pour aller au-delà, puisque au-delà de la Belgique wallonne, c'est vrai que c'était assez compliqué pour nous d'aller rencontrer des citoyens dans les rues, y compris dans les campagnes, dans les hameaux, pour parler d'Europe, puisque évidemment. Un agriculteur croate ne parle pas forcément anglais de façon approfondie, surtout pour parler institutions européennes, par exemple. Donc on a fait ça pendant 6 mois et on s'est arrêté dans les rues de façon aléatoire pour recueillir les propositions et pas seulement les avis des gens qu'on croisait sur l'Europe et sur l'Europe de demain, de façon constructive.
Et ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que l'Europe, ça existe dans l'idée des citoyens que vous avez rencontrés? Est-ce que c'est éloigné? Est-ce qu'on en attend quelque chose? Est-ce qu'on en a peur?
On en attend énormément, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à quelques semaines des élections européennes qui ont lieu le 26 mai prochain. On en attend énormément et règne surtout un sentiment de déception qui est la raison pour laquelle nous avons défini une espèce de catégorie intermédiaire entre les deux grandes catégories classiques des eurosceptiques et des pro-européens, puisqu'en fait la majorité de ceux que l'on rencontrait nous disaient « Moi l'Europe j'en attendais tellement que finalement aujourd'hui je suis déçue ». Et donc, pour certains, je vote eurosceptique, je me définis comme eurosceptique. Ce sont les mêmes eurosceptiques autoproclamés qui nous indiquaient que parmi les propositions pour améliorer l'Europe, il faudrait un gouvernement européen, une défense européenne, etc. On leur disait, comme eurosceptique, on a vu plus sceptique. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette notion d'euro déçu, puisqu'il y avait vraiment une attente immense d'Europe qui fait qu'aujourd'hui les citoyens se retrouvent pour une partie d'entre eux assez perdus puisqu'ils se disent j'en veux plus et je veux plus d'intégration et je me rends compte que l'Europe est nécessaire et que l'échelon européen est essentiel au XXIe siècle. Mais je ne sais pas vraiment, par exemple, pour qui voter, puisque soit ce sont des gens qui sont, entre guillemets, européens, soit ce sont des gens qui ne s'intéressent pas, qui veulent la détruire. Et du coup, ils se retrouvent un peu perdus dans la situation actuelle.
On arrive toujours à l'idée que l'Europe, c'est compliqué.
L'Europe, c'est compliqué et c'est malheureusement très méconnu, puisque des choses très simples, en réalité, sont assez inconnues aux yeux du grand public. Par exemple, pour prendre un exemple qui est le plus connu, le programme Erasmus, qui est un peu le programme phare de l'Union européenne qui permet de faire voyager des étudiants, aujourd'hui, il ne fait plus voyager que des étudiants. Il fait voyager, par exemple, des stagiaires, des professeurs,
des apprentis,
des élèves dans des écoles primaires, etc. Et parmi les propositions qu'on nous citait souvent, il y avait élargir Erasmus au-delà des étudiants. Et quand on répondait à nos interlocuteurs, est-ce que vous savez que ça existe déjà sur ce sujet comme sur tant d'autres, mais celui-là est vraiment vraiment iconique. Finalement, il y a une impression d'être pris de court, puisque on nous répondait mais personne nous l'a jamais dit. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant? Donc, si davantage de personnes écoutaient Carrefour de l'Europe, peut-être qu'ils seraient plus au courant.
L'Europe, cette méconnue, mais en même temps, ce grand désir d'Europe, c'est un peu ce qui ressort de cette émission. Alors, je rappelle aux uns aux autres vos livres. Maxime Caligaro, Les Compromis, éditions Rivage. Un autre conseil de lecture, Maxime Caligaro.
Oui, Il faut achever l'euro de Jean Quatremer, qui est un, parce que c'est un des héros de notre livre, et deux, parce que ça se lit comme un roman d'espionnage, et on comprend un peu comment est né l'euro, cette monnaie qu'on a dans la poche, mais qu'on connaît très mal.
Ariane Forg, Des Européens et des Hommes, un conseil de lecture?
Oui, alors, deux conseils. Une revue, la revue européenne qui a commencé à sortir le numéro est sorti il y a quelques semaines, et le livre Les Amnésiques de Géraldine Schwarz, dans lequel elle fait une espèce de grande enquête familiale sur son passé français et allemand.
Prix du livre européen cette année. François Reinhardt, Voyage en Europe aux éditions Fayard, et votre conseil?
Alors, c'était absurde, mais le dernier livre que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est Les Compromis de Maxime Caligaro. Donc, je dis celui-là, je suis désolé. Hein, mais...
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec la complicité de Nicolas Manche. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé. Deux possibilités, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. Dans les deux cas, cliquez sur émission. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, ou que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, c'est possible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.